Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode!
Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et un peu ce que tu fais en rapport avec l'OGC Nice du coup.
Salut Tom, merci pour l'invitation. Voilà, je m'appelle Vincent, comme tu l'as dit, je suis supporter de l'OGC Nice. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et du coup, bon, je suis un supporter inconditionnel du club. Et depuis quelques temps, du coup, j'essaie de me spécialiser un petit peu dans l'analyse tactique, le scouting et tout ça autour de l'OGC Nice, forcément. Je vais aussi beaucoup voir de matchs des équipes de jeunes de l'OGC Nice et j'essaie de commenter un peu ce que je vois, de débriefer avec les autres supporters sur Twitter, de mettre en relation la communauté et d'échanger ensemble.
Et au-delà d'être supporter et d'être en relation avec les autres supporters, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est Fred et un peu ta création de contenu autour de la tactique et de la data justement?
Oui, tout ce que je fais autour de la data, de l'analyse vidéo, l'analyse aussi de joueurs tout simplement, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 ans et c'est en fait une vraie passion pour moi. Donc j'hésite pas à partager sur Twitter des analyses de joueurs que je verrais bien rejoindre l'OGC Nice, pareil sur des analyses tactiques, sur des buts, des actions, des principes de jeu aussi de l'OGC Nice de Farioli. De partager tout ça sur Twitter et au fur et à mesure, d'avoir aussi un petit peu plus de contact dans le milieu du football.
Ok, justement, on va rentrer directement dans l'analyse tactique de M. Farioli, qui évidemment est un peu la sensation de notre Ligue 1, qui manque peut-être un peu de saveur en ce début de saison, mais voilà, il est très intéressant comme coach. Évidemment, il y avait déjà des bonnes bases en termes de... que Nice était la deuxième meilleure défense du championnat de la saison dernière. Mais qu'est-ce que Farioli, en général, fait différemment de ses prédécesseurs, notamment peut-être dans la préparation ou dans sa mise en place tactique, sachant qu'il y a encore du 4-3-3 qui existait au club depuis plusieurs saisons?
Oui, Farioli, je pense que déjà, il a bénéficié du fait que depuis la saison dernière, l'équipe type, on va dire, le 11 de départ, a très peu évolué. Puisque on a enregistré beaucoup de départs au mercato d'été, mais de joueurs indésirables ou qui n'avaient pas réalisé une bonne saison ou deux bonnes saisons par le passé. Et du coup, on a fait quelques ajustements au mercato, donc avec Boga, Sanson notamment. Et c'est des tout petits ajustements qui ont permis en fait de garder un vrai équilibre dans l'effectif, avec notamment Todibo, Thuram qui sont restés et qui étaient pourtant sur le départ. Donc il a cette chance-là aussi d'avoir un effectif qui se connaît bien, qui a déjà évolué ensemble et qui est déjà bien construit. Et ensuite, il a mis en place tout simplement sa patte tactique. C'est un entraîneur qui est très minutieux, qui est très à cheval sur les détails au niveau tactique. Et il s'adapte beaucoup à ses adversaires. Il l'a dit lui-même, il analyse tous les matchs. Il est très très porté sur le détail, sur les points faibles, les points forts de chaque équipe. Et en fait, à chaque match, il essaie d'avoir une formule un petit peu commune, mais en ajoutant quelques petites touches pour s'adapter et contrer l'adversaire. On peut par exemple citer contre le Paris Saint-Germain, on avait Youssouf Ndayishimiye, donc numéro 6, qui redescendait souvent entre les deux centraux que sont Dante et Todibo, pour fermer l'espace et empêcher Mbappé de prendre la profondeur. Donc voilà, il y a beaucoup de petits détails et comme tu l'as dit, on évolue en 4-3-3, mais c'est un 4-3-3 qui est très déformable dans le sens où les positions des joueurs sont très libres. Alors ça se voit pas beaucoup dans l'animation offensive parce qu'on est un petit peu stérile, on manque de qualité technique, mais on a des joueurs qui sont responsabilisés, qui sont assez libres aussi de leurs mouvements et de leurs déplacements. Et du coup, ça nous permet d'avoir plus facilement le contrôle du match.
Alors on parlera peut-être de cette modélisation et ses déplacements dans la phase pressing de mes questions. Mais d'abord, j'allais te demander peut-être si l'impact au duel et la stabilité dans le jeu, c'était un peu ces préceptes un peu plus importants qu'on peut retrouver chez Farioli.
Oui, totalement. L'impact, il est aussi facilité parce qu'on a des joueurs dans l'effectif qui ont une dimension physique importante, qui ont aussi un état d'esprit assez conquérant. Je pense à Dante, Todibo, mais aussi Youssouf, même Mofi et Laborde, qui sont des offensifs, mettent énormément d'intensité et d'impact dans les duels et les courses. Donc on a un effectif aussi qui a de grosses ressources et peut-être les meilleures ressources en Ligue 1 sur ce plan-là. Et au niveau... excuse-moi, j'ai perdu la deuxième...
Stabilité dans le jeu.
Ouais, stabilité. Voilà, stabilité dans le jeu. Bah, le but de Farioli, c'est vraiment d'avoir le contrôle du match. Donc, pour lui, la stabilité, c'est pas avoir non plus tout le temps le ballon et dicter le rythme du match, mais c'est aussi être capable de défendre et de garder de la stabilité en défendant, mais aussi en attaquant. Donc, en fait, c'est un contrôle de toutes les séquences du match. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant avec Farioli. C'est que son équipe maîtrise plusieurs facettes. L'OGC Nice est capable de marquer sur des contre-attaques, de marquer sur du jeu de possession, mais aussi d'effectuer, par exemple, un contre-pressing très haut ou alors de se replier et de défendre plus bas. Et ça, c'est une des forces de cet effectif, c'est qu'on s'adapte constamment à la façon de jouer de l'adversaire et aux situations en match.
On a parlé évidemment énormément de la relation qu'a pu avoir Farioli et De Zerbi. On va d'abord parler du côté un peu défensif. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déclenche ou se modélise le pressing de l'OGC Nice à Brighton? On parle notamment des défenseurs qui mettent le pied sur le ballon pour attendre que l'adversaire vienne à eux. Est-ce qu'il y a un peu de ça chez Nice et est-ce qu'ils se retrouvent plutôt en sorte de bloc médian avant de déclencher un pressing à l'adversaire?
Pour déclencher le pressing, en fait, c'est pareil, ça va dépendre des phases de jeu, mais par exemple, sur une relance courte de l'adversaire, le Nice de Farioli va avoir tendance à essayer d'aller chercher très haut son adversaire, notamment avec Mofi, Laborde et Boga. Et après, on est capable de s'adapter, comme je disais, quand la première ligne défensive est sautée côté niçois. Eh bien, il y a un repli défensif qui s'organise. On cherche avant tout à énormément fermer l'axe avec le trident Thuram, Sanson, Youssouf. Et puis, il y a aussi des latéraux qui ont un rôle assez intérieur, que ce soit avec ou sans ballon. Et donc, ça permet de fermer absolument tous les espaces et les demi-espaces du terrain. Et ça permet d'avoir une vraie maîtrise défensive avec des joueurs à distance d'intervention assez courte qui permettent de se couvrir aussi les uns les autres. Et puis, comme je disais, voilà, tu as cette facette de l'OGC Nice qui peut aller chercher haut, mais aussi cette facette qui est capable de rester en bloc médian ou bloc bas et d'attendre l'erreur de son adversaire. Donc, c'est encore une fois de l'adaptation aux séquences de jeu et aux situations de match.
Alors, on a pu voir en ligne un peu des analyses tactiques, évidemment, de Farioli et certaines images où on voit qu'il y a 3 à 5 joueurs qui sont hyper loin devant, qui sont collés à la ligne de surface de l'adversaire. Et par contre, la ligne défensive est vraiment sur la ligne médiane. Donc, ça crée une sorte de no man's land de milieu de terrain. Est-ce que ça s'est fait exprès ou est-ce que c'est plutôt l'adversaire qui essaie de s'adapter un peu à l'OGC Nice?
Je pense que c'est fait exprès. En tout cas, ce qui se dégage beaucoup dans la mise en place du pressing de Farioli, c'est que c'est un pressing au marquage un par un. C'est vraiment flagrant et on a même nos centraux qui n'hésitent pas à aller chercher très haut l'attaquant qui va décrocher. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, sur le premier but de Mofi par exemple, c'est une récupération de Todibo qui en fait va venir suivre le décrochage de Mbappé dans les 30 mètres et récupérer le ballon. Et en fait, on pourrait appeler ça un petit peu un marquage en toile d'araignée. C'est vraiment du 1 pour 1 et suivi de tous les mouvements. Alors ça peut créer des espaces, mais comme il y a beaucoup de compensation derrière et de compréhension tactique de la part de l'équipe, au final, c'est une stratégie qui marche bien, qui permet à Nice de récupérer beaucoup de ballons et de très peu s'exposer.
Très bien. Et alors, du coup, on va parler de l'offensive. Tu as dit qu'il manque peut-être un peu d'efficacité. Ça a été assez évident, je pense, contre Nantes ce week-end. Mais je vais quand même essayer de tirer un peu les conclusions qu'on a pu avoir, les relations qu'on a pu avoir avec De Zerbi. On voit notamment à la relance Dès le départ, on parlera de Boulka derrière, mais les jeux en triangle pour relancer de derrière, avant de partir en transition. Je pense qu'on a moins de transition rapide comme on peut avoir à Brighton, à Nice. Comment est-ce que tu définiras un petit peu la phase offensive de ce club ?
C'est vrai que tu disais qu'il y avait moins de transition rapide entre, par exemple, Brighton et Nice. Je pense aussi que le championnat et la façon de jouer de ce championnat impactent ça. Il y a beaucoup plus d'espace à exploiter, je pense, en Première Ligue qu'en Ligue 1, donc moins l'opportunité en Ligue 1 d'avoir ces phases de transition rapides. Et puis, après, la mise en place du jeu de Nice, elle est très classique. C'est de la relance courte, beaucoup d'utilisation du jeu au pied du gardien Marcin Bulka. Et on cherche vraiment à aspirer l'adversaire, en fait. On a vu beaucoup de séquences entre Dante et Todibo, et d'ailleurs, ça a fait parler, où les deux centraux s'échangeaient le ballon en attendant le premier pressing adverse pour fixer la première ligne de défense et ensuite trouver des espaces au milieu ou sur les côtés. Et pour le moment, cette première relance est efficace, mais c'est surtout dans les 30 derniers mètres que Nice a du mal. Ça manque un peu de justesse technique, un peu de créativité, c'est assez stérile. On se crée quand même des occasions parce que avec la possession importante que Nice a, il y a quand même des joueurs aussi capables de faire des différences, comme Mofi, comme Boga, comme Thuram aussi. Et ça nous permet d'avoir des occasions, mais c'est encore trop peu, je trouve, vu le potentiel de cet effectif. Et puis, il y a eu aussi un manque dans l'efficacité offensive. On vendange beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de situations mal négociées par nos attaquants, et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui.
Ouais, on a pu voir que quand même les meilleures performances de Nice sont venues peut-être contre des blocs plus hauts, comme le PSG notamment, où la relance était peut-être un peu plus longue, où on allait faire des déviations sur la board et Mofi avant de partir en profondeur. Comment est-ce que Farioli peut adapter son jeu pour être un peu plus efficace devant ? Parce que c'est une chose d'être la meilleure défense au moins de Ligue 1, si ce n'est d'Europe. Mais après, il faut quand même marquer quelques buts pour continuer de rester sur les devants.
Effectivement, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur la proximité de nos offensifs aussi. Moi, de ce que je remarque, c'est qu'on a nos ailiers, donc Laborde et Boga, qui sont quand même très souvent excentrés, collés à la ligne. Mofi, qui est vraiment un peu esselé dans la zone défensive adverse. Et nos milieux qui apportent trop peu de soutien offensif, que ce soit Thuram, Sanson, même Boudaoui, même si Boudaoui, on l'a un peu plus vu se projeter, mais pour le reste, c'est trop peu dans les 30 derniers mètres, il y a trop peu de différences individuelles en 1 contre 1, il y a trop peu de passes cassantes. Donc voilà, ça manque un peu de prise d'initiative, de prise de risque, et c'est peut-être ça aussi, faut que les joueurs ne se fixent pas comme objectif de bien défendre, mais aussi de se lâcher offensivement, d'essayer un peu plus de choses au lieu de rester sur un jeu très stéréotypé. Et puis ça peut venir aussi au mercato d'hiver, où Nice peut attendre peut-être un milieu créatif ou un ailier supplémentaire pour avoir des options différentes. Et ça pourra aussi débloquer ce problème-là côté niçois.
Ok, on va parler de l'un des grands artisans aussi de la bonne stratégie défensive, entre guillemets, de Nice, et c'est évidemment M. Bulka dans les buts. Évidemment, le passé de Farioli dit que forcément le gardien va être très important avec son expérience de coaching de gardien et son expérience de gardien tout court. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut enseigner ou qu'il enseigne actuellement à Bulka, qui n'était quand même pas forcément attendu à ce niveau-là cette saison?
Je pense que Bulka, là où il a énormément progressé depuis que Farioli est arrivé, c'est sur son jeu au pied. Il est beaucoup plus en confiance et on le voit de moins en moins rater de passes, de dégagements. Le progrès est flagrant à ce niveau-là sur les saisons, par rapport aux saisons précédentes. Après, Bulka a toujours été un excellent gardien sur sa ligne et dans les airs, ça a toujours été le cas. Mais là, c'est vrai qu'au pied, il n'était pas réputé pour avoir une relance excellente. Et puis, je trouve que depuis le mois de juin, il a fait des progrès énormes. Même dans la préparation, on voyait qu'il était un peu en difficulté sur certaines phases de jeu de relance. Là, en ce moment, il est vraiment très à l'aise, très serein. Et ça permet aussi de rassurer sa défense et d'avoir une option en plus à la relance. Donc, je pense que Farioli, il a beaucoup insisté sur ce plan-là qui est à la base de son jeu offensif. Donc, pour lui, c'était un peu la clé et la pièce maîtresse de la mise en place de son jeu de possession.
Okay. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'infos forcément en dehors du terrain, mais on parle beaucoup de Farioli en tant que, qu'un peu un obsédé qui pense tout le temps au foot, qu'il a des avis extérieurs. J'ai l'impression qu'il y a un quatuor de personnes qui viennent l'aider là-dessus aussi. En termes de préparation et peut-être d'utilisation de la data, tu le vois comment Farioli, c'est un mec un peu aligné avec son temps, vu qu'il a 37 ans, donc c'est plutôt une nouvelle génération très data, ou est-ce que c'est un truc à peu près commun qui juste l'utilise à bon escient, quoi?
C'est quelqu'un qui, bah, comme tu dis, qui est très curieux, qui a toujours voulu beaucoup apprendre. Il a fait notamment des études de philosophie, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un en fait de très ouvert et qui est en constante réflexion. Et je pense que c'est un entraîneur, on va dire, moderne, dans le sens où il va utiliser chaque outil à sa disposition et essayer d'en tirer un maximum. Donc forcément l'analyse vidéo, il a un nouvel adjoint en analyse vidéo qui l'a rejoint aussi cet été, et puis l'analyse de data aussi qui est très présente. Il l'a dit, les joueurs l'ont dit aussi, ils analysent énormément de matchs, énormément de data pour préparer justement les rencontres à venir et essayer de s'améliorer aussi de leur côté sur les choses qui ne fonctionnent un petit peu moins bien aujourd'hui.
Compléter là-dessus. Qu'est-ce que, évidemment, on a parlé de l'efficacité offensive et du manque peut-être de créativité. Est-ce que c'est là l'axe principal à améliorer pour rester dans le haut tableau pour Nice?
Oui, totalement. Je pense que aujourd'hui la Ligue 1 est d'un niveau quand même assez faible. On profite aussi du fait que des équipes comme Monaco ou Rennes ont un petit peu galéré au démarrage. Et du coup, nous, comptablement parlant, on était vraiment bien. Et du coup, ça nous a permis de nous détacher. Mais je pense pas qu'on puisse tenir toute la saison avec une qualité de jeu comme celle qu'on voit aujourd'hui. Même si Nice est très pragmatique et pour le moment ça paye, mais comme on l'a vu ce week-end contre Nantes par exemple, on a perdu, donc quand la réussite ne nous sourit pas, ça peut ne plus fonctionner. Et je pense que c'est très important pour Nice d'avoir une arme en plus et du coup de travailler cette créativité, cet talent offensif et cette prise d'initiative, tout simplement pour se montrer beaucoup plus dangereux et réussir à débloquer des matchs un peu plus fermés où l'adversaire va nous attendre un peu plus bas, où les espaces seront très fermés.
Super. Bah, écoute, la dernière question que je vais te poser, c'est plutôt en tant que supporter, tu vois Nice terminer où en fin de saison?
Je pense qu'on a les moyens de finir dans le top 4. Il faut savoir que l'objectif, c'était le top 6 à la base. Aujourd'hui, il y a Paris et Monaco que je vois finir sur le podium. Et derrière, on sait que quand même, Lens revient bien. On a Lille aussi qui est là. Reims qui peut être une belle surprise. Mais je pense que Nice, en restant sérieux, en ajoutant un petit peu de créativité peut-être au mercato, mais aussi tout simplement en progressant sur la deuxième partie de saison, Nice a de quoi jouer le top 4. Et pour moi, avec le classement aujourd'hui, ça devrait être l'objectif à se fixer pour les joueurs.
Top. Juste, je viens d'y penser, hein, on le mettra peut-être pas forcément dans l'enregistrement, c'est plus pour notre préparation à nous. Évidemment, il y a toutes les infos de Ineos qui rachèterait Manchester United. Est-ce que ça peut faire peur aux supporters niçois qui se disent que United, c'est évidemment entre guillemets, un plus gros projet pour Ineos et qui lâcherait peut-être Nice dans les mois qui viennent?
Bah effectivement, ça peut faire peur dans le sens où il y a un petit passif, c'est-à-dire que il y a un an jour pour jour, on promettait à Florent Ghisolfi des moyens assez conséquents pour le mercato estival 2023. Et puis au final, en mai dernier, la feuille de route a un petit peu changé quand les contacts avec Manchester se sont créés, puisque les robinets ont été coupés, hein, le budget mercato a été totalement restreint, moins de 25 millions d'euros pour cet été. Et ça peut faire peur dans le sens où on a senti quand même un frein à investir à l'OGC Nice. Alors ça a été dit sous le terme de changement de projet, de recentrer sur l'essentiel et moins de dépenses pour dépenser plus intelligemment. Mais la réalité, c'est que Ineos a prévu de moins investir dans l'OGC Nice. En tout cas, c'était ce qui se disait cet été. Et c'est totalement en relation avec la prise de 25% des parts du club par Jim Ratcliffe et par Ineos. Donc ça peut faire peur. On sait que c'est le rêve de Jim Ratcliffe d'avoir Manchester United. Nice n'est peut-être qu'une étape pour lui, on n'a pas trop d'infos là-dessus, c'est assez flou à notre niveau, mais l'inquiétude peut être légitime en tout cas sur ce niveau-là.
Ok, top, merci beaucoup. Alors,
attends, je vais... Merci à toi.